Cette émission vous est proposée par Schneider Electric qui permet à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en assurant le progrès et le développement durable pour tous. Schneider Electric est fier d'être le partenaire du marathon le plus responsable du monde. Alors vous aussi, rejoignez le mouvement des Green Runners. Bonne écoute.
Bienvenue sur le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Cette émission va vous inspirer, vous motiver et vous aider dans la préparation de votre prochain défi sportif. Bonne écoute.
Soyez les bienvenus sur Objectif Marathon, le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nombreuses idées reçues qu'on peut avoir sur le marathon et pour nous aider à y voir plus clair et démêler le vrai du faux sur les spécificités de cette distance mythique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Bellouze, entraîneur au Stade Français Athlétisme et spécialiste de course de fond. Frédéric, un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va ?
Bah, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, c'est plutôt à moi de te remercier de m'inviter dans ce programme pour parler d'une distance mythique qui, comme tu l'as dit, me plaît tout particulièrement comme un certain nombre de runners et de runneuses.
Eh bien parfait, et je te propose qu'on commence sans plus attendre l'émission d'aujourd'hui. Tu sais, on dit souvent que le marathon c'est vraiment la distance reine dans le monde de la course à pied. Il y a un véritable prestige autour de cette course. Et d'ailleurs, les personnes qui s'aventurent sur cette épreuve, eh bien ils ont l'impression de vivre presque une aventure humaine, notamment lors de la préparation. Mais du coup, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi le marathon est-il aussi mythique ? Car quand on y réfléchit bien, c'est loin d'être la distance la plus longue dans le monde de l'athlétisme. Tu n'es pas sans savoir qu'il existe des 100 km et même des 24 heures. On peut citer aussi les trails et les ultra-trails qui sont également très exigeants. Alors pourquoi est-ce que cette course fascine autant les coureurs et les coureuses selon toi ?
Alors déjà, incontestablement, Guillaume, c'est clair que le marathon est une distance à part dans le monde du running. Et je pense pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, pour une raison historique, et je dirais même plus qu'historique, une raison mythologique, parce que le marathon est bel et bien un vrai mythe en fait. Il faut savoir qu'en 490 avant Jésus-Christ, les Grecs remportent une victoire fondamentale face aux Perses, et cette victoire a lieu dans la ville de Marathon. Et là, un messager court jusqu'à Athènes afin de proclamer, de donner cette bonne nouvelle de victoire sur les Perses. Et la mythologie veut que le messager, en arrivant, n'arrive juste qu'à prononcer ces seuls mots, « Nénikamen », qui signifie « nous avons gagné ». Et après, il décède, il meurt d'épuisement. Alors, tu vois, c'est vraiment l'idée que courir cette fameuse distance, parce que entre la ville de Marathon et la ville d'Athènes, il y a une quarantaine de kilomètres, et ben c'est quelque chose qui peut te conduire entre guillemets à la mort. C'est quelque chose de mythologique et d'héroïque. Alors tout ça aurait pu rester tout simplement dans les livres d'histoire pour faire rêver tous les férus de mythologie, mais lors de l'organisation des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne qui ont eu lieu à Athènes en 1896, bien un Français, et plus précisément le linguiste Michel Bréal, a décidé de s'inspirer de cette légende en faisant partir les coureurs du marathon de l'antique champ de bataille dans la ville de Marathon jusqu'au stade d'Athènes. Et c'est comme ça que finalement se sont rencontrés le sport et la mythologie. Et depuis, les deux vont ensemble. Et pour la petite anecdote par rapport à ces premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, ce marathon fut remporté par un jeune berger grec de 24 ans, du nom de Spyridon, un nom très connu dans le monde de la course à pied, et qui a achevé l'épreuve en 2h58 minutes et 50 secondes.
Hyper intéressant. Merci pour ce récit, Frédéric. C'est vrai qu'on se rend compte de toute la mythologie qu'on peut avoir derrière le marathon, son histoire. Mais il y avait 40 km, je crois, entre la ville de Marathon et Athènes. Du coup, comment est-ce qu'on est arrivé à cette distance un peu bâtarde de 42 195 km? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu saugrenu.
Alors, en fait, très, très simplement, c'est à l'époque, au tout début, quand on a remis en place le marathon, lors de ces premiers Jeux d'Athènes, les JO de l'ère moderne, on n'était pas vraiment très regardant avec les distances officielles. Et l'histoire de ces 42 km 195 précisément remonte aux Jeux Olympiques de Londres de 1908, où la distance est fixée alors à 26 miles terrestres. Et cela, tout simplement, on va dire, pour une raison, c'est que la course doit partir de la pelouse du château de Windsor, sur demande des enfants de la famille royale qui souhaitent voir le départ de la course, et pour s'achever au White City Stadium. Alors, mais finalement, Édouard VII exige que la course se termine au pied de la loge royale où il sera présent. Et de ce fait, la distance est alors fixée à 26 miles et 385 verges, soit, dans notre système métrique, 42 km et 195 mètres. Mais cette distance, elle va encore varier parce que lors des JO de Stockholm de 1912 et ceux d'Anvers en 1920, elle ne sera pas exactement de 42 km 195 et il faudra alors attendre les Jeux Olympiques de Paris de 1924 pour que l'organisation des Jeux fixe officiellement la distance du marathon à 42 km 195. Alors peut-être pour continuer à faire plaisir à la famille royale britannique, qui sait, mais en tout cas c'est la référence et on peut se réjouir dans un sens qu'elle était fixée à Paris.
On peut se réjouir que ce soit à Paris, effectivement. En tout cas, on s'aperçoit de la dimension historique que représente le marathon avec ce récit que tu nous as raconté du messager. La volonté aussi, lors des tout premiers Jeux Olympiques modernes, du symbole, de recréer cette course, cette distance mythique. Et c'est curieux de voir toute cette histoire, elle a perduré au fil des siècles. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui contribue au rayonnement et à l'image du marathon. Et peut-être même, c'est ce qui a contribué à sacraliser le marathon. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est une distance qui peut faire peur.
C'est vrai, et je dirais même que finalement le marathon est une victime collatérale, donc consentante de cette image de sacrifice, de souffrance qui lui colle à la peau, hein, parce que je rappelle que le fameux messager est mort au bout de ces quelques 40 kilomètres. Parce que même si le marathon est effectivement une épreuve exigeante, elle reste accessible à tous et à toutes. Et d'ailleurs, je partagerai avec toi une statistique qui, à mon sens, est assez révélatrice. 98% des partants du Schneider Electric Marathon de Paris sont des finishers. Et c'est exactement la même stat pour les hommes et les femmes. C'est donc bien que lorsqu'on se fixe cet objectif, eh bien, on a plus que des chances de l'atteindre, on l'atteint.
Mais tu penses vraiment que tout le monde a sa place sur marathon? Parce que tu sais, on entend souvent qu'il faut déjà avoir une certaine expérience, il faut déjà avoir des références kilométriques sur d'autres distances pour pouvoir se lancer sur marathon, parce que c'est une course qui est très exigeante. Et voilà, que ce serait réservé quand même qu'à une certaine catégorie de coureurs. C'est quoi ton avis par rapport à ça en tant qu'entraîneur?
Alors, moi, je te dirais que non seulement je le pense, mais quand on regarde le succès populaire que rencontre le marathon, il me semble évident que cette épreuve s'est énormément démocratisée au fil des années. Je vais juste faire un petit retour en arrière, pas trop loin non plus. Par exemple, lors de la première édition du Marathon de Paris, en 1976, on comptait seulement 126 athlètes. Et il faudra attendre 1986 pour que la barre symbolique des 10 000 participants soit franchie. Et depuis, ce chiffre n'a fait qu'augmenter. Et en 2019, on dénombrait pas moins de 60 000 inscrits au Schneider Electric Marathon de Paris, ce qui en fait l'une des épreuves sportives les plus populaires en France. Donc oui, tout le monde a sa place sur marathon, à condition évidemment de s'y préparer. Après, évidemment, je le rappelle, il faut être assez clair sur son objectif et adapter son entraînement en fonction de son ambition, qu'elle soit chronométrique ou simplement être finisher. Et il faut que cette ambition soit évidemment corrélée à nos capacités et à nos moyens d'entraînement durant cette période. On est loin quand même de l'époque où le marathon était réservé à des athlètes aguerris, parce que ça a été longtemps le cas. Maintenant, c'est un défi que tout le monde peut se lancer, mais comme tout défi, il faut s'y préparer.
Merci Fred, c'est important de le rappeler. Tout le monde a sa place sur marathon. On peut être un homme, on peut être une femme, on peut être un coureur jeune, on peut être très jeune, on peut être âgé, voire même très âgé, courir le marathon en moins de 3 heures ou en plus de 5 heures. C'est une course qui est ouverte à toutes et à tous, et c'est important de le rappeler effectivement.
Alors, totalement, comme je te le disais, je pense que tout le monde a sa place sur marathon. Et il y a effectivement un mythe qui colle à la peau du marathon, c'est que globalement, il s'agirait d'une course interdite aux jeunes et réservée à des athlètes en pleine force de l'âge et de vrais athlètes, entre guillemets. Dans l'athlétisme classique, on a un schéma qui est plutôt préconstruit, c'est qu'il faut d'abord faire ses armes, ses classes, si on peut dire, sur cross et sur piste, avant de passer sur la route, mais évidemment des 10 kilomètres, après des semis, et ensuite passer au marathon. Et clairement, c'était un peu le schéma classique qui a perduré jusque dans les années 90. mais ce modèle, il est largement battu en brèche et il a été notamment au cours de ces 15 dernières années par les athlètes venus de l'Afrique de l'Est, les Éthiopiens, les Kényans, qui pour certains arrivent sur marathon dès 20 ans et qui sont aussi très performants hein, à 20 ans. Ils viennent pas juste faire de la figuration. Alors la question du coup qu'on peut se poser, c'est existe-t-il un âge idéal pour débuter sur marathon ? Et je te dirais oui. Et cet âge, c'est celui auquel vous, personnellement, vous avez envie de faire un marathon, parce que c'est ça qui finalement va déterminer votre capacité à mobiliser toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire face à ce défi. C'est votre envie de départ. Donc, écoutez-vous et allez au bout de votre idée. Et ainsi, tout simplement, vous pourrez aller au bout de vous-même.
C'est très intéressant ce que tu dis, Fred, parce que c'est vrai, ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on aime faire. Si on est quelqu'un qui est très épanoui sur les courses d'endurance, sur les longues distances, pourquoi se forcer à aller faire des 10 km, des 5 km, des courses rapides si on n'aime pas ça? Effectivement, ça fait pas vraiment sens. Il n'y a pas d'âge pour courir un marathon. Tu l'as dit, aujourd'hui, les meilleurs athlètes éthiopiens, kényans, ont quelquefois moins de 25 ans. On a eu aussi, dans un autre épisode du podcast Objectif Marathon, Marie Rouvière, qui est une athlète qui a la vingtaine d'années et qui a préparé un marathon. Ça s'est extrêmement bien passé. Elle a vécu une expérience incroyable et elle est très jeune et elle n'avait pas forcément d'expérience sur les autres distances. Donc, on voit que ça peut vraiment très bien se passer. C'est juste une question d'envie, une question aussi de bien se préparer à cette échéance-là. Après, peut-être qu'il y a aussi une question de peut-être plus personnel, qui est autour de la légitimité. Est-ce qu'on se sent légitime? Est-ce qu'on se sent capable de courir un marathon? Toi, je sais, Fred, que tu entraînes des athlètes de tout niveau, des athlètes élites, mais aussi des athlètes avec un niveau peut-être plus modeste. Et d'ailleurs, est-ce que peut-être les athlètes que tu coaches ont des fois ce problème de légitimité? Est-ce que des fois, ils te disent qu'ils se sentent pas forcément à leur place sur marathon, parce qu'ils sont peut-être pas capables de courir en moins de 4 heures, en moins de 3 heures un marathon? Est-ce que c'est des préjugés qui sont malheureusement encore d'actualité?
Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'il faudrait avoir une certaine légitimité, un certain historique, un certain cursus en course à pied, en athlétisme, pour pouvoir se présenter sur marathon, pour pouvoir prétendre affronter la distance, voire avoir un certain niveau chronométrique. Moi, je pense que tout le monde a sa place dans le marathon. Et ça, il faut vraiment être clair sur cette question-là. Il n'y a pas de personnes qui sont plus légitimes que d'autres. C'est justement une fête populaire. Et je pense que c'est justement la distance qui, paradoxalement, peut sembler la plus inaccessible, mais qui finalement réunit le plus d'athlètes d'horizons très différents, à la fois des athlètes de très haut niveau, des athlètes de haut niveau, des athlètes de très bon niveau national, régional, et des athlètes totalement amateurs qui viennent là juste pour être finishers, et ils participent tous ensemble à cette grande fête. Et les chiffres sont à l'appui. Les courses qui réunissent le plus de coureurs ne sont pas les 10 km, ne sont pas les semi-marathons, c'est pas les 100 km, c'est pas les 24 heures, les ultra-trails ou autres, c'est bien le marathon, c'est la fête absolue de la course à pied et qui réunit justement tout le monde. Et c'est pour ça que ça en fait un événement particulier.
Effectivement, Fred, t'as entièrement raison. Le marathon, c'est une course qui est inclusive, qui rassemble tous les profils de coureurs, qu'on soit athlète de haut niveau, qu'on soit athlète amateur, qu'on court depuis plus de 30 ans ou qu'on ait commencé la course à pied quelques mois auparavant. Et c'est aussi ça, la beauté de cette course, c'est de pouvoir rassembler tous les profils de coureurs. Après, il y a peut-être aussi cet a priori qui est que quand on prépare un marathon, c'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose de très exigeant où il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est quoi ton avis par rapport à ça?
Est-ce que la prépa d'un marathon est si difficile? Non, mais ça dépend de votre objectif, de votre point de départ également. Et il faut s'attendre à faire un certain nombre de kilomètres, ce qu'on appelle des sorties longues, suivant le niveau de 2 voire 3 heures. L'idée, c'est d'accumuler de la caisse, mais la difficulté d'une préparation, elle est toujours, comme toute chose, corrélée finalement à l'objectif final, tout simplement. C'est pas plus difficile qu'une autre préparation. Elle demande souvent un peu plus de kilomètres, pour les athlètes de très haut niveau, beaucoup plus de kilomètres, mais voilà, tout reste adapté, on va dire, à l'objectif, à l'attente de la personne qui court.
Frédéric, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à une autre idée reçue qu'on peut entendre sur le marathon, une légende même, j'ai presque envie de dire, sur cette course-là. C'est le fameux mur, tu sais, c'est à partir du 30e, 35e kilomètre, quand on a les jambes coupées, qu'on est presque incapable de pouvoir avancer. C'est quelque chose qui est souvent décrit comme très, très dur pour le sportif ou la sportive quand elle rencontre ce fameux mur. Alors, est-ce que c'est une légende ou ce mur, il existe bel ou bien et on peut tous y être confronté, en particulier si on débute sur marathon?
Alors, avant de te répondre, je dirais que nous, les entraîneurs, notamment spécialisés en marathon, on a une phrase comme ça qui dit finalement la bonne préparation pour un marathon, c'est lorsque le mur arrive une fois la ligne d'arrivée franchie. Tout ça pour dire qu'en fait, si tu es bien préparé, si l'athlète a fait ce qu'il fallait faire, normalement, ce mur-là, on l'évite. Il faut pas se lancer sur marathon en se disant « quoi qu'il arrive, je vais rencontrer ce mur ». À un moment, il faut pas se mentir non plus, la course sera un peu plus difficile parce qu'évidemment, c'est long, c'est exigeant. Mais le mur, c'est vraiment ce moment où tu ne peux plus du tout avancer. Hein. Les coureurs qui ont réellement rencontré un mur, c'est pas ceux qui, par exemple, couraient à 5 minutes au kilo et ont dû passer à 5:30. C'est ceux qui courent à 5 minutes au kilo et qui ont dû s'arrêter pour marcher très concrètement, voire arrêter totalement. Ça, c'est ça le mur. Avoir un petit coup de bambou et être un peu dans la difficulté, ça fait partie de l'épreuve. Et justement, l'entraînement et les fameuses sorties longues sont là pour vous y préparer. Donc, bien préparé, logiquement, vous allez ressentir une certaine difficulté, évidemment, sinon il n'y aurait pas quand même ce mythe autour du marathon, mais vous n'allez pas taper de plein fouet le mur.
Bon, voilà qui est très rassurant, parce que c'est vrai que ce mur, c'est quelque chose qui peut vraiment effrayer les futurs marathoniens et marathoniennes. On en entend beaucoup parler. D'ailleurs, si on veut peut-être mieux comprendre ce phénomène, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi il est dû? Si un jour on est malheureusement confronté à ce mur, qu'est-ce qui va se passer biologiquement dans notre corps? Ce phénomène, il est lié à quoi?
En fait, globalement, les deux grandes pistes, parce que c'est pas non plus totalement arrêté de manière définitive, les deux grandes pistes qui expliqueraient ce mur seraient la dégradation des fibres musculaires, trop de casse au niveau des fibres musculaires et à un moment, elles ne fonctionnent plus, on n'arrive plus à avancer. Et la deuxième explication, ça serait un épuisement des réserves énergétiques. On a concrètement plus de jus pour avancer, plus d'essence dans le moteur. Après, très honnêtement, on a ces explications qui sont globalement justes, mais une préparation adéquate va justement permettre de renforcer les fibres musculaires de façon à faire face à cette distance et à la durée qu'on va être à l'effort, et en même temps optimiser, on va dire, l'utilisation de nos stocks énergétiques et qui, du coup, va nous rendre plus performants et efficient le jour même de la course et va nous permettre justement de gérer ces stocks de manière optimale.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Fred, parce que il semblerait, si j'ai bien compris, que ce mur il soit lié notamment à la faiblesse musculaire. Donc c'est vrai que pendant sa préparation on peut faire par exemple des exercices de musculation, de renforcement musculaire, on peut faire des sorties longues aussi pour muscler son corps pour qu'il soit capable d'endurer tous ces petits micro-chocs musculaires. Ça peut aussi être lié à un problème nutritionnel, donc là on se rend compte que toutes les questions de la nutrition, ça va être très important avec les ravitaillements, notamment l'hydratation le jour de la course, mais aussi en amont, pendant les 12 semaines où on prépare sa compétition, il faudra être vigilant à ses apports nutritionnels. Et bien sûr, dans ce podcast, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur la préparation du marathon, sur les spécificités en termes de musculation, de nutrition, toutes les questions qui sont liées également à la récupération. On va revenir évidemment plus en détail dans les prochains épisodes, mais est-ce que tu peux déjà donner peut-être les grandes lignes d'une prépa marathon parfaitement orchestrée? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un bon plan d'entraînement?
Alors, très simplement, la base, mais c'est la base de tout plan d'entraînement, c'est l'endurance, notamment l'endurance fondamentale. 70% de votre entraînement sera fait à cette allure-là, ce qui correspond, pour ceux qui s'intéressent un peu à cette question-là, à environ 60% de votre vitesse maximale aérobie. Ensuite, une partie sera consacrée aux sorties longues et au travail de la vitesse spécifique marathon, qui est votre allure cible, qui, elle, se situe environ 80% de vitesse maximale aérobie. Alors, suivant les niveaux, c'est 75%, 80%. Et une sortie longue, c'est de 2 heures à 3 heures d'entraînement continu. Alors, en allure d'endurance, en incluant justement cette allure spécifique marathon. Ensuite, il y aura un travail, et tu en as parlé, de renforcement musculaire spécifique. C'est ce qu'on appelle de l'endurance de force. C'est-à-dire que on peut le faire à poids de corps et on a des répétitions qui vont jusqu'à 15-20 sur 3-5 séries des exercices de base comme des squats, des fentes, voilà. Et de temps en temps, quand même, un rappel sur des allures plus rapides, des séances un peu de fractionnées pour un peu diversifier l'entraînement et pouvoir varier les allures. Mais vraiment, le gros de l'entraînement, ça sera l'endurance et la sortie longue avec le travail de l'allure cible et le renforcement musculaire spécifique.
Merci Fred. Comme je l'ai dit à l'instant, on aura évidemment l'occasion de revenir sur toutes les étapes d'une préparation marathon parfaitement orchestrée. Si vous êtes à la recherche, par exemple, de plans d'entraînement ou de conseils, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Schneider Electric Marathon de Paris. Vous allez pouvoir y retrouver des plans d'entraînement génériques. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur l'Instagram officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Vous allez y retrouver des lives avec notamment Johan Durand, un athlète de haut niveau qui vous donnera ses conseils et vous allez pouvoir aussi lui poser vos questions. Fred, avant de se quitter, j'aimerais bien qu'on parle maintenant plus spécifiquement du Schneider Electric Marathon de Paris parce que je sais que c'est un marathon que tu affectionnes particulièrement et que tu recommandes souvent à tes athlètes. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes sur cette course mythique ?
Moi, je commencerai par le fait, c'est quand même, nous, on est français, on court dans notre capitale, qui est une ville magnifique, et ça, c'est plus qu'un symbole, très honnêtement, parce qu'il y a, cette ambiance, il y a ce plaisir de courir, dans les rues de notre capitale. C'est quand même un décor assez fantastique. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marathons sur la planète qui aient un tel parcours. Ensuite, il y a quand même l'ambiance sur la fin de course, notamment sur la deuxième partie de course qui est beaucoup plus animée et qui vous pousse. Et j'irai tant mieux parce que c'est souvent là que les coureurs peuvent commencer à avoir un peu de fatigue. Il y a un côté logistique aussi que je veux souligner, notamment quand c'est un premier marathon, mais pas que. On court dans notre pays et cela facilite très concrètement la compréhension des choses, comment je dois me déplacer. Et sincèrement, qu'on vienne pour un premier marathon ou qu'on vienne chercher la performance, c'est autant d'éléments qui vous libèrent mentalement et qui du coup vous mettent dans des dispositions un peu plus easy que si vous auriez dû prendre l'avion pour aller je ne sais où, pratiquer une langue que vous ne maîtrisez pas forcément. Ça c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, très concrètement, c'est pas le parcours le plus plat, mais il faut quand même dire très clairement que c'est sur le marathon de Paris, qui ont été réalisés à une époque le record de France et le record d'Europe 1 par Benoît Z. Et ce record de France est toujours d'actualité pour les hommes, mais malheureusement, au niveau européen, il a été battu. Et le record de France féminin par Christelle Denet, qui a été battu aussi dans les rues parisiennes. Donc, c'est quand même un parcours largement propice à la performance.
Effectivement, c'est des avantages qui sont très précieux. Le Schneider Electric Marathon de Paris, c'est aussi une course qui est très visible puisqu'elle est diffusée à la télé. C'est vraiment la grande fête de la course à pied en France et c'est une course connue de tous les Français, presque. Donc forcément, quand on prépare cette compétition-là, il y a l'intérêt de nos proches, de nos amis, de nos collègues de bureau, de notre famille. Et c'est des gens qui peuvent aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent, être sur le parcours pour nous encourager parce que c'est quand même plus simple de se déplacer à Paris. Donc c'est autant d'avantages qui font plaisir parce que ça fait du bien de se sentir soutenu tout simplement. Fred, en guise de synthèse de cet épisode, quel conseil tu pourrais nous donner pour toutes celles et ceux peut-être qui vont se lancer sur cette course mythique ? C'est quoi les astuces que tu peux nous donner pour que ça se passe bien ?
Alors moi, le tout premier conseil que je donnerais, c'est ayez confiance en votre rêve et en votre souhait d'atteindre cet objectif parce que vous allez faire ce qu'il faut et du coup, vous allez y arriver, tout simplement. Voilà, ne vous posez jamais la question de ce défi-là. Vous avez décidé de le relever et vous allez le relever. Là-dessus, il y a aucun doute. Le deuxième, c'est soyez assez clair, du coup, sur votre objectif et sur ce que vous fixez comme barrière par rapport à cette première ou, si c'est pas la première, à ce marathon proprement parlé. un conseil, mais qui vaut pour toutes les courses, mais encore plus sur marathon, ne testez rien le jour de la compétition. Donc, les chaussures, elles ne sont pas neuves. Vous les avez testées. Votre short, votre legging, votre débardeur, votre t-shirt, vous avez tous testé. Les ravitaux, vous les avez tous testés également. Si vous utilisez des gels, eh ben, vous les avez testés, notamment lors des sorties longues. Bah, tout simplement pour des choses très pratiques, savoir bien comment l'ouvrir et l'ingérer. Rien de nouveau le jour même de la course. Et surtout, bah voilà, écoutez tous les conseils, notamment qui vont vous être donnés dans le cadre des différents podcasts du programme. Et du coup, vous allez nourrir votre connaissance et votre préparation en vue de ce formidable défi.
Effectivement, on sera à vos côtés pour vous informer, pour vous conseiller, pour vous aider dans votre préparation pour le prochain Schneider Electric Marathon de Paris. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux officiels du Schneider Electric Marathon de Paris. Si vous partagez vos entraînements avec un ami, avec un collègue de travail, ou si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui prépare un marathon, n'hésitez pas également à lui parler de ce podcast ou à lui envoyer cet épisode. Je suis sûr qu'il vous en sera très reconnaissant. Merci infiniment, Fred, pour cet épisode. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
À vous de jouer et on sera là pour vous encourager. En tout cas, ça, c'est sûr. Salut!
Tout le monde connaît ASICS, mais saviez-vous que son nom est l'acronyme d'une célèbre expression latine « anima sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. ASICS, c'est la marque numéro 1 du running en France et elle est fière non seulement d'être le partenaire officiel de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris, mais aussi d'accompagner chaque jour des millions de runners dans la pratique de leur passion qui les aide à faire du bien à leur corps et à leur esprit. À bientôt !